Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous avons le plaisir de retrouver notre association Arnica Montana. Bonjour Claude Rémy. On va parler aujourd'hui de la biodiversité des Hautes-Alpes, une richesse à préserver.
Qui renferme une diversité absolument remarquable et extraordinaire. L'année 2010 a été déclarée par l'ONU l'année internationale de la biodiversité. Si on utilise souvent ce mot pour indiquer le nombre d'espèces vivantes, le terme de biodiversité comprend également la diversité des écosystèmes et la diversité génétique des individus au sein d'une même espèce. Cette dernière notion peut être illustrée en observant un ensemble de plantes de la même espèce. On remarque alors souvent, par exemple, une variation de la couleur des fleurs ou une variation de la taille de la plante. Ces variations qui révèlent une diversité génétique, c'est-à-dire une diversité au niveau des gènes. Le département des Hautes-Alpes renferme une grande diversité d'espèces animales et végétales. On y trouve plus de 3000 espèces de plantes, ce qui représente les trois quarts de la flore française, le quart de la flore européenne. Le département des Hautes-Alpes abrite également plus de 400 espèces de vertébrés, plus de 700 espèces de lichens, plus de 200 espèces de papillons de joug. Comment expliquer cette très grande biodiversité des Hautes-Alpes? La très grande amplitude d'altitude, de 478 mètres à 4102 mètres, n'est pas étrangère à cette biodiversité remarquable d'espèces, mais également d'habitats naturels du département, qui s'étend de l'olivier, qui est présent dans le Laragnier, jusqu'au glacier du massif des Écrins. La flore et la faune se répartissent en effet en fonction de l'altitude. Nous allons prendre un exemple. Lorsque vous traversez le département, de la Ragne au col du Galibier, vous voyez se succéder de grandes formations végétales qui se répartissent en bandes superposées que les botanistes appellent les étages de végétation. Ces étages de végétation sont particulièrement bien repérables au niveau des forêts. Aux forêts de chênes pubescents, qu'on va trouver par exemple dans le Araignées, dans le Cap-Ancien, succèdent des forêts de pins sylvestres, puis de pins crochets ou de mélèzes dans la partie est du département, et enfin des forêts de pins sambreaux jusqu'à environ 2450 mètres d'altitude. Au-delà de 2500 mètres d'altitude, les conditions climatiques ne permettent plus aux grands arbres de pousser. Nous entrons alors dans l'étage alpin, avec ses pelouses, ses rochers, ses éboulis. Ces variations de conditions topographiques vont également jouer un grand rôle dans la répartition de la flore et de la faune. Par exemple, au niveau d'une pelouse d'altitude, nous observerons une variation de la flore sur les petites buttes ou dans les petites cuvettes. Dans ces petites cuvettes, appelées combats neige, la neige reste très tard au début de l'été et la saison de végétation est très courte, guère plus de 1 à 2 mois. Nous trouverons donc une végétation de très petite taille avec par exemple des saules nains qui sont de véritables bonsaïs naturels. L'orientation des versants joue également un rôle fondamental dans la répartition de cette biodiversité qui est différente en Ubac, c'est-à-dire en versant nord, ou en Adré, c'est-à-dire en versant sud. Par exemple, le rhododendron ferrugineux craint énormément le gel tardif. Il se réfugie donc en versant nord, là où le manteau neigeux est plus épais et protège la plante du gel. Les falaises d'altitude servent de lieu de nidification à certains oiseaux rupestres, comme l'emblématique aigle royal, ou le ticodrome, le ticodrome qui est un petit oiseau gris et rouge dont le vol évoque celui d'un papillon. Et ces falaises peuvent héberger également le crabe à bec rouge ou le chocard à bec jaune, souvent confondu avec les choucas qui ne fréquentent pas ces falaises d'altitude. C'est également dans les falaises de haute altitude que nous pouvons rencontrer les remarquables plantes rares et protégées en forme de coussinets, que sont les androsaces alpines, androsaces helvétiques, androsaces pubescents. Ces plantes peuvent pousser à plus de 3500 mètres d'altitude. Ces formes étonnantes en coussinets permettent à la plante de résister aux conditions climatiques rigoureuses qui règnent dans ces milieux inhospitaliers, notamment résister au vent fort, au froid, à la déshydratation. Les zones humides d'altitude, les bords de lacs, les marécages, les bords de ruisseaux, renferment également une flore souvent rare et fragile. La grande diversité biologique des Hautes-Alpes est également due aux multiples influences climatiques que reçoit le département. Les influences du climat des Alpes du Nord, les influences atlantiques dans le Champsaur, le Val Godemar, le sud du Dévoluy, où les précipitations sont plus abondantes. Les grands lichens en forme de lanières ou de cheveux qui pendent des branches d'arbres, comme les ramalinas, ou les grandes usnées, appelées parfois barbes de capucin, y sont beaucoup plus abondantes que dans le Briançonnais à climat plus sec. On a également des influences du climat méditerranéen qui remontent le long de la vallée de la Durance avec chaleur et sécheresse au sud, mais un climat froid et sec dans le Briançonnais, le Queyras, la Haute Durance. C'est grâce à cette chaleur, à cette sécheresse que nous allons trouver dans la vallée de la Durance des pelouses très sèches, d'ailleurs appelées pelouses pré très steppiques dans lesquelles poussent de nombreuses plantes d'origine méditerranéenne. C'est également à cause des influences méditerranéennes que la limite des étages de végétation est décalée d'environ 200 mètres vers le haut dans la vallée de la Durance par rapport aux Alpes externes et aux Alpes du Nord. On a également l'influence du climat piémontais qui engendre des précipitations abondantes dans la zone frontalière avec l'Italie. La géologie du département des Hautes-Alpes est également très complexe et renferme une grande diversité de roches. Cette diversité géologique influence également positivement la diversité végétale. Nous citerons par exemple les roches calcaires sédimentaires de nombreux secteurs du département, les roches granitiques riches en silice du massif des Écrins, les gypses riches en sulfate, les grands cols alpins du Galibier et de l'Isoire, les roches riches en fer du massif du Chenaillet. En effet, certaines plantes poussent plutôt sur des roches calcaires, comme la petite campanule alpestre. D'autres, fuyant le calcaire, se réfugient plutôt sur sols siliceux ou non calcaires, comme par exemple le rhododendron ferrugineux. Le département des Hautes-Alpes est également caractérisé par une grande richesse en plantes et animaux dits endémiques, c'est-à-dire qu'ils ne se trouvent que dans un secteur géographique plus ou moins localisé. Nous citerons par exemple le prunier de Briançon. Ce prunier de Briançon est endémique du sud-ouest des Alpes, Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes. Dans notre département, il est localisé dans les secteurs intra-alpins du Briançonnais, du Guiestrois et du Carre. Autre plante endémique, et qui pousse sur une aire géographique beaucoup plus réduite, le chardon du mont Aurouze, plante très rare, présente uniquement dans la montagne d'Aurouze dans le Dévoluy. Parmi les animaux endémiques du département, nous citerons bien entendu la salamandre de Lanza, qui fréquente un secteur très localisé, humide, d'environ 1 km² du Carras. On entend souvent parler de baisse inquiétante de la biodiversité au niveau national, mais également au niveau mondial. Cette dégradation de la biodiversité touche aussi bien la faune que la flore, que les milieux naturels. Qu'en est-il dans les Hautes-Alpes? La biodiversité régresse-t-elle dans notre département? Nous en avons malheureusement de nombreux exemples dans les Hautes-Alpes où on observe des dégradations directes de la biodiversité avec par exemple des aménagements ou constructions dans les espaces naturels dont la surface régresse de façon rampante comme en atteste la comparaison de photos aériennes prises à plusieurs décennies d'intervalle. Les stations de ski cherchent à accroître le domaine skiable de plus en plus haut en altitude pour essayer de gagner quelques années sur le réchauffement climatique. Ces installations de remontées mécaniques, de restaurants d'altitude, de retenues collinaires d'eau et nivellement de pistes de ski avec assèchement de zones humides sont en train de faire disparaître les derniers refuges pour une faune de montagne déjà fortement menacée. Le projet d'aménagement en domaine skiable, ski alpin, du massif du Chaberton à plus de 3000 mètres d'altitude, un des derniers sites, si ce n'est le dernier site naturel épargné de la commune de Montgenèvre, est malheureusement toujours d'actualité. On est en train de voir une multiplication des équipements de voies d'escalade sur de plus en plus de falaises. On a même vu, dans le Briançonnais, plusieurs exemples de voies d'escalade nouvellement créées sans aucune concertation avec les ornithologues. Ces voies d'escalade qui passent très près d'aires de rapaces rupestres rares, comme le faucon pèlerin, le grand-duc d'Europe. La pratique de ces voies en période de reproduction des oiseaux risque fortement d'entraîner l'abandon par les adultes des œufs ou des jeunes à l'air. Un minimum de concertation peut pourtant permettre, dans la plupart des cas, de concilier des sports de pleine nature et la préservation de la biodiversité. Il y a heureusement quelques exemples positifs, comme celui de la commune d'Orpierre, un des hauts lieux de l'escalade du département, qui a consulté il y a quelques années le Centre de recherche alpin sur les vertébrés, le CRAV, afin d'effectuer des études des oiseaux rupestres pour délimiter des zones sensibles et trouver des solutions de compromis entre préservation de la vie faune et pratique de l'escalade. Saluons également la commune de Monnetier-les-Bains, qui a pris en 2009, grâce à l'action conjointe d'ailleurs du CRAV et de la Fédération française de montagne et d'escalade, un arrêté limitant l'escalade d'une falaise en dehors de la période de reproduction d'un couple de faucons pèlerins qui avait établi son aire. On observe depuis peu la destruction de surfaces non négligeables de bois, voire de forêts, de prairies, même en altitude, pour installer des hectares de fermes dites photovoltaïques constituées de panneaux solaires. S'il est légitime d'équiper les toitures pour utiliser l'énergie solaire, la destruction de la biodiversité pour cela est un non-sens écologique. On observe également une multiplication d'éoliennes sur des crêtes ou cols d'altitude, sans le plus souvent prendre en compte les dommages sur les oiseaux et les chauves-souris qui meurent hachés par les pales. Il est donc indispensable de ne pas développer les énergies renouvelables au détriment de la biodiversité, mais de concilier les deux. La nécessité d'enrayer la chute de la biodiversité est aussi une urgence environnementale, comme l'est l'urgence climatique. Parmi les dégradations directes de la biodiversité, signalons certaines modifications de pratiques agricoles, comme le remembrement, qui entraînait la disparition de haies et l'appauvrissement des sols. Les Hautes-Alpes sont moins touchées par ce type de dégradation que d'autres départements. Certaines dégradations peuvent être plus insidieuses, mais non moins néfastes. C'est le cas de la pollution atmosphérique et de la pollution des eaux. Les polluants, qui ne sont pas toujours visibles, contaminent les chaînes alimentaires, empoisonnant les nombreuses espèces vivantes vivante et créant un déséquilibre des réseaux trophiques, c'est-à-dire des réseaux alimentaires. Ces modifications entraînent une chute importante de la biodiversité. Le faucon pèlerin a failli disparaître dans les années 1970, en particulier par l'utilisation d'un pesticide actuellement interdit, le DDT. L'observation de semis de graines enrobées et l'épandage de pesticides dans le sud du département nous montre que les insecticides sont toujours utilisés. La pollution atmosphérique, outre son impact négatif sur la santé humaine, peut également affecter directement les végétaux. Les études menées par Arnica Montana, avec la collaboration du laboratoire des pollutions atmosphériques de l'INRA, ont montré que même dans les hautes Alpes, le seuil de sensibilité de végétaux naturels, dont certaines espèces patrimoniales, est dépassé. Cela se manifeste par des colorations entre les nervures de la face supérieure des feuilles. Ces altérations végétales sont particulièrement visibles sur les framboisiers et les cornouillers. Le réchauffement climatique présente également une menace pour la flore et la faune d'altitude, adaptée aux conditions rigoureuses qui règnent en haute montagne. Nous en reparlerons dans une prochaine chronique. Le développement des sports de pleine nature en altitude peut, comme j'ai déjà dit, mais il est important de le répéter, provoquer un dérangement préjudiciable à la faune, en particulier en période hivernale et en période de reproduction. Ainsi, plusieurs études ont montré dans différents secteurs que l'équipement d'un domaine skiable ou l'utilisation de motoneiges était suivi d'une diminution importante de population de tétralyres, appelés également petits coqs de bruyère. Dans la Haute-Vallée de la Clarée, mais également dans d'autres secteurs du département, on observe les effets d'un surpâturage ovin sur la biodiversité végétale de prairies d'altitude. La grande fétuque ou fétuque paniculée, délaissée par le bétail, se développe inconsidérément au détriment d'autres plantes, ce qui entraîne un appauvrissement important de la diversité végétale. À plusieurs reprises, nous avons signalé la grande richesse floristique du département. Or, le botaniste alpin Édouard Chasse, dans son atlas de la flore des Hautes-Alpes, publié en 1994, signale déjà une diminution de la biodiversité végétale. Il signale que 20% de la flore des Hautes-Alpes correspond à des espèces rares, à distribution restreinte ou à faible effectif. 204 espèces signalées dans les Hautes-Alpes par les auteurs anciens n'ont pas été revues après 1965. Pour beaucoup, cela correspond à des disparitions réelles de stations anciennement connues. Le niveau de régression est maximum dans le Briançonnais et le Gapensé, c'est-à-dire dans les zones les plus urbanisées, avec respectivement 252, 243 espèces qui n'ont pas été revues. Les sites botaniques les plus remarquables sont aussi les plus exposés à cette érosion biologique et écologique. Plusieurs espèces citées par les auteurs du 19e siècle dans des sites floristiques de grande renommée comme le col du Lautaret, la haute vallée du Guil, n'ont plus été revues depuis plusieurs dizaines d'années. De nombreuses autres se sont raréfiées au point de compromettre la survie des dernières populations. Notre association qui effectue des suivis naturalistes depuis plus de 30 ans a également noté la disparition de stations de plantes rares et remarquables chaque année. Et chaque année de nouvelles menaces de disparition. La concertation d'associations d'études et de protection de la nature comme Arnica Montana, par exemple lors d'aménagement ou d'organisation d'épreuves de sport de pleine nature, permet souvent de trouver des solutions pour éviter ou limiter fortement les impacts négatifs sur la biodiversité. Certains outils ont été mis en place pour essayer d'enrayer cette érosion de la biodiversité. C'est le cas des parcs nationaux, des réserves naturelles, des arrêtés de protection de biotopes. C'est le cas également des réseaux européens Natura 2000, dont le but est de préserver la biodiversité d'intérêt communautaire tout en prenant en compte les aspects économiques. Et nous trouvons dans le parc national des écrins, bien sûr, des réserves naturelles, arrêtés de protection de biotopes et des sites Natura 2000 dans le département des Hautes-Alpes. La mise en place des sites Natura 2000 s'est faite à partir d'une large concertation. De nombreux sites, comme je viens de le dire, des Hautes-Alpes sont concernés par le réseau Natura 2000. Et ces sites jouent un rôle important dans la préservation de la biodiversité, bien entendu. Et ça, c'est à prendre en compte, n'oublions pas. Notre association Arnica Montana fait d'ailleurs partie de nombreux comités de gestion de nombreux sites. La biodiversité remarquable des Hautes-Alpes est une richesse patrimoniale importante du département qu'il est évidemment nécessaire de préserver. Depuis plus de 30 ans, notre association Arnica Montana travaille bénévolement pour mieux connaître et préserver la diversité biologique du département et vous pouvez bien entendu nous rejoindre pour nous y aider.
Merci beaucoup.